Matin. Alors, vous me permettrez peut-être de temps en temps de m'asseoir, hein, vous m'en voudrez pas. C'est pour ça que j'ai mis la chaise là. Hein. On va ouvrir la parole et je voudrais partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce message, il est peut-être pour quelqu'un en particulier ce matin, ou pour plusieurs. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une direction de Dieu. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une porte que Dieu ouvre. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin que Dieu nous dirige. On a besoin que Dieu nous conduise. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la bonne porte? Des fois, on peut se retrouver aussi devant des portes fermées. Et on se pose des questions. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, si c'est le cas de quelqu'un ce matin, si peut-être on attend une réponse du Seigneur, une direction du Seigneur, j'aimerais te dire ce message, il est pour toi ce matin. Et peut-être quelqu'un me dira, ah ben moi je ne suis pas concerné par ça. Peut-être aujourd'hui, mais peut-être demain, oui. Donc si c'est demain, tu t'en rappelleras. Tu te diras, ah oui, je me souviens, il avait parlé un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit, hein? Et là, eh bien peut-être que ça te rappellera des choses. On va ouvrir la parole dans le livre des Actes. On va lire un premier texte. Rappelez-vous, c'est l'apôtre Pierre qui est emprisonné à cause de sa foi. Je vous resitue rapidement le contexte. Jacques a été tué par le fil de l'épée. Et puis, il semblerait que c'est au tour de Pierre. Hérode, en tout cas, a tout fait pour ça. Il l'a fait emprisonner. Je le disais mardi, vendredi soir, il a mis 16 bonhommes, 16 gardes pour un seul prisonnier. Hein. On dirait que Pierre, c'était l'ennemi public numéro un. Et puis, dans la nuit qui précède la comparution de Pierre, il va se passer quelque chose. Et c'est là qu'on va prendre notre lecture, acte 12, verset 6. Il dit ceci, « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre, donc, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Je voudrais surtout qu'on retienne pour nous ce verset 10, si tu peux le mettre, où il est question de cette porte de fer. Et il nous est dit explicitement, et franchement, c'est un texte que j'ai déjà lu des dizaines et dizaines de fois, et je ne m'y étais pas vraiment arrêté. Mais il est dit explicitement que cette porte de fer, elle s'est ouverte d'elle-même devant eux. Et c'est vrai que si on lit ça vite fait, on pourrait passer dessus, très vite, passer à autre chose, mais pourtant, on louperait quelque chose d'extrêmement important. Ce que je note et ce que je veux faire ressortir, c'est que quelque part, cette porte de fer, il n'y a pas eu besoin de pousser, il n'y a pas eu besoin de forcer. Il n'y a pas eu besoin de donner un coup de main pour qu'elle s'ouvre. Il n'y a pas eu besoin d'une aide extérieure pour qu'elle s'ouvre. La Bible dit explicitement qu'elle s'est ouverte d'elle-même, toute seule, sans forcer. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important, il y a une leçon spirituelle pour nous. Et j'ai voulu commencer par là parce que ça pose les bases. C'est que quand Dieu ouvre une porte, il n'y a pas besoin de forcer. Quand Dieu ouvre une porte, quel que soit le domaine, il n'y a pas besoin de pousser, il n'y a pas besoin d'essayer de donner un coup de main au Seigneur, il n'y a pas besoin d'essayer de forcer, il n'y a pas besoin d'une aide extérieure ou de je sais trop quoi. La porte, elle s'ouvre d'elle-même et elle s'ouvre toute seule. Et la porte, même si elle est verrouillée, même si peut-être c'est une porte de fer, même si elle est fermée à double tour, parce que c'est le plan de Dieu, ça s'ouvrira. Il n'y a pas besoin de forcer. Et je crois que c'est important de le rappeler. Et peut-être ce matin, mon frère, ma soeur, dans un domaine ou dans un autre, tu as besoin qu'une porte s'ouvre. Tu as besoin d'une direction de Dieu. Alors j'aimerais te dire que quand Dieu ouvre une porte, alors il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin d'essayer quelque part d'enfoncer la porte. Il n'y a pas besoin d'essayer de donner un coup de main au Seigneur. Ça se fera tout seul. Ici, dans ce contexte-là, c'était pas la volonté de Dieu que Pierre reste croupisse dans cette prison et qu'il finisse par mourir. C'était pas le moment de partir. C'était pas le moment pour lui de rejoindre le Seigneur. C'était pas le moment. Et parce que c'était pas le moment, la porte s'est ouverte. Croyez-moi que si ça avait été le moment, la porte se serait pas ouverte. Et même si l'Église avait prié, si c'était le moment de partir, la porte serait restée fermée. Pourquoi ? Parce que quand Dieu ouvre une porte, il n'y a pas besoin de forcer. Ça s'ouvre tout seul. Ça s'ouvre de lui-même. Voyez ? Et même des fois, on est surpris. Des fois, des portes que Dieu a ouvertes, on se dit, mais franchement, je ne m'y attendais pas. Ça s'est fait simplement, ça s'est fait facilement. Peut-être certains pourraient même donner un témoignage en disant, mais dans tel domaine, j'attendais qu'une porte s'ouvre. Et puis la porte s'est ouverte normalement, naturellement, sans forcer, toute seule. Pourquoi ? Parce que quand c'est la porte de Dieu, ça s'ouvre tout seul. Ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Et partant de là, je voudrais m'arrêter, on a posé le cadre, je voudrais m'arrêter sur 3-4 textes où justement on retrouve quelques instructions à ce niveau-là et où on trouve des portes qui se sont fermées et d'autres qui se sont ouvertes. Et à chaque fois, il y a des choses intéressantes pour nous. Déjà, rappelez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, j'aurais pu lire ce verset aussi en introduction, quand le Seigneur écrit à une des 7 églises, l'église de Philadelphie, alors je vous donne la référence, c'est Apocalypse 3, verset 7, il se présente comme celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et comme celui qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Et d'ailleurs, vous rappelez que c'est à cette église qu'il va être dit ceci, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Donc quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Voyez ? Mais partant de là, je voudrais qu'on retire quelques indications. Par exemple, rappelez-vous, dans ce récit, on s'est arrêté, c'est toujours dans les actes, on s'est arrêté il y a 2-3 semaines sur ce texte, rappelez-vous, acte 16, verset 6. Et c'est très intéressant parce que dans ce passage, vous avez quelque part des portes qui se sont fermées et une porte qui s'est ouverte. Regardez, acte 16, verset 6, on va le relire. C'est l'apôtre Paul qui était en voyage missionnaire et nous a dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ici, c'est très intéressant ce qui se passe et très pratique pour nous. Quand on réfléchit, c'est très pratique, très concret encore pour nous aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que pour l'apôtre Paul, à ce moment-là, il y a 2 portes qui se sont fermées et il y en a une qui s'est ouverte. Donc c'est très intéressant d'essayer de comprendre un petit peu comment Dieu a fonctionné et ce qui s'est réellement passé. Première chose que je note, et c'est très important, c'est que la porte qui s'est ouverte, on l'a lu, c'est celle de la Macédoine. Et vous noterez qu'à la base, ce n'était pas la porte que Paul voulait emprunter. Ce n'était pas celle-là que Paul voulait emprunter. Et je crois que c'est très intéressant parce que ça nous montre que en matière de porte qui s'ouvre ou qui se ferme, c'est important que, quelque part, on soit souple et malléable et qu'on ne soit pas figé. Si l'apôtre Paul avait dit « c'est celle-là et pas une autre », ben il aurait tourné en rond. Et c'est à Dieu à ouvrir les portes, ce n'est pas à nous. C'est vrai qu'on peut avoir des idées, on peut avoir des projets, on peut avoir des plans, mais après, parce qu'on a donné notre cœur au Seigneur, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va conduire. Et parfois, il se peut que le Seigneur ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas pensé, des portes que peut-être nous, on n'aurait pas prévues, voyez ? Et c'est important que quand c'est le cas, on soit assez souple, malléable pour non seulement le comprendre, mais prendre cette porte, voyez ? J'aimerais peut-être dire à quelqu'un, nous dire en tout cas à tous ce matin, ne soyons pas figés. Et si Dieu voulait ouvrir une porte qu'on n'avait pas prévue ? Oui, quand il s'agit des autres, on dit tous amen. Hein. En général, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit de nous, est-ce que Dieu peut me diriger ou pas ? Est-ce que Dieu peut m'ouvrir une porte auquel je n'ai pas pensé ? Ou est-ce que je vais être figé, buté ? Je crois, et je l'ai déjà vu, des enfants de Dieu qui parfois n'ont jamais avancé, ont végété dans la vie avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient focalisés sur une porte, ils s'étaient focalisés sur un projet, ils s'étaient focalisés sur quelque chose. Et ce n'est pas ça que Dieu a ouvert. Il a ouvert autre chose. Mais ils n'y sont jamais allés parce qu'ils étaient butés. Et je crois que c'est important que l'attitude de l'apôtre Paul nous interpelle pour dire, Seigneur, si tu m'ouvres une porte, même si ce n'est pas celle auquel je pensais, je veux la prendre. Et je me dis, heureusement que l'apôtre Paul a pris cette porte de la Macédoine, parce que c'est par là que l'évangile est rentré en Europe. Et aujourd'hui, on est là. Il y a eu derrière la conversion de Lydie, la première convertie en Europe, et puis après, tous ceux qui ont suivi derrière. Mais voyez, ce n'était pas la porte initialement prévue par l'apôtre Paul, mais il s'est laissé conduire. Je crois que c'est important, si on veut vraiment être des hommes et des femmes de Dieu, qu'on se laisse conduire, même si ce n'est pas la porte qu'au départ on avait prévue. Maintenant, deuxième chose que je note dans ce texte, et c'est très important, c'est que pour que la bonne porte s'ouvre, il a fallu que Dieu en ferme deux d'abord. Je l'ai dit il y a 15 jours, je crois, sur ce texte. Comment elles ont été fermées, je ne sais pas. Ayant été empêchées par le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans le sens que, concrètement, comment le Saint-Esprit a empêché, j'en sais rien. Mais toujours est-il que le Saint-Esprit a fermé la porte d'abord de l'Asie, et ensuite il a fermé la porte de la Bithynie. Voyez ? Et il a fini par ouvrir la porte de la Macédoine. Ça nous montre une chose, c'est que, parfois, pour que la bonne porte s'ouvre, la porte de Dieu s'ouvre, il faut au préalable que Dieu ferme d'autres portes. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser. Voyez, parce que parfois, une porte qui se ferme, on peut l'interpréter de la mauvaise manière. J'aimerais peut-être encourager quelqu'un en disant, ne sois pas effrayé, ne sois pas découragé, ne sois pas négatif si Dieu est en train de te fermer certaines portes. Parce que peut-être Dieu est en train de fermer ces portes-là pour t'ouvrir la bonne. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, voyez ? C'est exactement ce qui s'est passé. Souvent, on interprète une porte qui se ferme comme quelque chose de forcément négatif. C'est négatif, ben voilà, la porte s'est fermée. Alors, ça s'est ouvert pour lui, ça s'est ouvert pour elle, mais pour moi, ça ne s'ouvre pas. Ben, gloire à Dieu ! Ça veut dire que quelque part, si Dieu est en train de fermer cette porte-là, ça veut dire qu'il en prépare une autre. Qui n'est peut-être pas forcément celle auquel on avait pensé, celle que nous-mêmes, naturellement, on aurait prise, mais qui est la bonne, et dans laquelle on va s'épanouir. Mais je crois que c'est tellement important de réaliser que parfois, pour qu'une bonne porte, la bonne porte de Dieu s'ouvre, il faut au préalable qu'il y en ait d'autres qui se ferment. Et si peut-être c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment, des portes fermées, tu te dis, mais moi je ne comprends pas, j'ai l'impression de me retrouver devant toute une série de portes qui sont fermées, j'essaye d'ouvrir là, ça ne marche pas, j'essaye de faire ça, ça ne marche pas, je postule là, ça ne marche pas, et là, ça ne marche pas. Ben, si tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur, laisse-le fermer les portes. Ça veut dire que s'il ferme, il enferme tout un tas, à un moment donné, forcément, il va en ouvrir une. Mais pour ça, il faut qu'on soit souple et malléable. L'apôtre Paul, dans cette scène, montre quelque part quelque chose qui a été un point fort chez lui, c'est qu'il était souple et malléable. Et ça c'est tellement important. C'est tellement important. Maintenant, regardez, un autre texte, et là aussi il est question d'une porte fermée. On la trouve avec Pierre, l'apôtre Pierre. Alors, je vous resitue le contexte. On est juste avant la crucifixion. Les disciples ont abandonné le Seigneur. La Bible nous dit que Pierre va suivre Jésus, mais de loin. Ne suivons jamais Jésus de loin. Hein. Parce que quand on suit quelqu'un de loin, un jour, on va finir par le perdre. Hein. Vous avez déjà suivi une voiture de loin, vous ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, vous me laissez mettre une voiture qui s'intercale avec la voiture que vous suivez, une deuxième, une troisième, et puis à un moment donné, elle tourne, vous ne la voyez pas. Et puis, vous êtes perdu. Pourquoi ? Parce que vous suiviez, mais de loin. On ne peut pas suivre le Seigneur de loin. Hein. Et Pierre, il suit le Seigneur de loin. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. On va le lire, regardez. Jean chapitre 18, verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple, c'est-à-dire, c'était Jean, était connu du souverain sacrificateur. Écoutez bien. Et il entra, Jean, il entra avec Jésus, dans la cour du souverain sacrificateur. Et là, regardez, verset 16. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Donc, il y en a un qui rentre, mais Pierre, lui, reste dehors. L'autre disciple, écoutez bien, parce que ça aussi, c'est tellement actuel ce texte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à la portière, il parle à la portière, vous comprenez, la dame qui ouvrait la porte, hein, c'est pas la portière, hein, de la voiture, hein, on a compris. Hein. Non, mais je préfère. On est dimanche matin, un peu fatigué, donc je préfère préciser. Hein. Il parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Alors là, ce qui se passe ici est extrêmement intéressant. Pierre, à un moment donné, se retrouve devant une porte, il ne peut pas rentrer. Par contre, son collègue, son acolyte, Jean, lui, il a franchi cette porte. Vous voyez ? Donc, un rentre et l'autre est dehors. Et vous avez remarqué que il y en a un, il a un peu le bras long. Il connaît le souverain sacrificateur et il connaît aussi la portière. Ça arrange les choses, hein ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis l'autre a fini par laisser rentrer Pierre. Sauf que, on l'a lu au verset 17, une fois que Pierre a franchi cette porte, qu'est-ce qu'il fait ? Il renie le Seigneur. Et c'est là que commence son reniement. Ici, vous avez le premier reniement, et il va y en avoir trois, vous vous rappelez ? Et il y a là tout un enseignement pour nous, extrêmement important pour nous. C'est que si cette porte-là était fermée pour Pierre, pas pour Jean, pour Pierre, c'est parce que le Seigneur savait exactement ce qu'il y avait derrière cette porte-là. Et derrière cette porte-là, pour Pierre, il y avait quelque chose qui n'était certainement pas à son avantage, c'était son reniement. Et il y a une leçon tellement importante pour nous, c'est que parfois, si Dieu laisse certaines portes fermées dans nos vies, il ne les ouvre pas, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Et il sait que ce qu'il y a derrière pour nous, ça ne nous sera pas profitable. Il sait que ce qu'il y a derrière pour nous, ça ne sera pas bénéfique et que peut-être même on va se casser la figure. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. Il a renié le Seigneur. Si la porte était fermée, c'est parce que le Seigneur savait ce qu'il y avait derrière. Mais vous avez remarqué comme moi, et je pense que je vais y venir parce que ça c'est important, il y a eu le petit coup de piston. Et Jean qui est allé voir la portière, cette femme, la servante, je ne sais pas comment ils se connaissaient, d'où ils se connaissaient, mais il est allé dire quelques mots qui ont fait que, bon, elle a fini par lui ouvrir la porte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Hein. C'est mon copain, c'est mon ami. Est-ce qu'il lui a promis quelque chose ? J'en sais rien. Mais il y a eu un petit coup de piston, voyez ? Et vous savez, je crois que c'est important de réaliser que si parfois Dieu n'ouvre pas certaines portes, il sait pourquoi. Et j'ai envie de nous dire ce matin, et peut-être ça s'adresse à quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser là. Si c'est le cas, tant mieux. Ne fonctionnons non pas à la manière des hommes. Combien de fois j'ai vu ça, où pour on a besoin d'une porte qui s'ouvre, on a besoin d'une situation qui se décante, t'inquiète pas, je connais quelqu'un. T'inquiète pas, je vais passer un petit coup de téléphone. T'inquiète pas, j'ai le bras long, j'ai des connaissances, je connais quelqu'un qui, ceci, cela. Mais ça, c'est la manière de fonctionner du monde, ça. L'enfant de Dieu, il ne peut pas fonctionner comme ça. Je peux pas chanter « Je décide de te suivre » et puis après, quand à un moment donné, j'ai besoin qu'une porte s'ouvre, attends, je connais quelqu'un, je vais aller lui demander. Parce que c'est plus Dieu qui me dirige. Hein. C'est moi qui suis en train, à la manière des hommes, d'ouvrir les portes. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, combien de fois j'ai vu des croyants fonctionner comme ça. Je connais quelqu'un, vous inquiétez pas, frère, j'ai demandé. Oh, mais moi, je m'inquiète pas. Hein. Enfin, si, je m'inquiète pour toi. Parce que si Dieu nous dirige, il est assez grand pour ouvrir la porte. Hein. On l'a vu avec cette porte de fer dans Acte 12, elle s'est ouverte toute seule. Il n'y a pas eu besoin de forcer, il n'y a pas eu besoin de pousser, il n'y a pas eu besoin d'une aide extérieure, il n'y a pas eu besoin d'un bélier, il n'y a eu besoin de rien. La porte s'est ouverte. Mais ici, oh, ça partait d'un bon sentiment, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, les petits coups de piston, ça part toujours d'un bon sentiment. Hein. C'est pour aider. Ah, ben écoutez, si on a des connaissances, c'est bien pour s'en servir. Oui, je veux bien. Mais, et Dieu là-dedans, lui. S'il veut laisser la porte fermée. Parce que si peut-être la porte est fermée, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Hein. Et ce qu'il y a derrière, c'est peut-être pas bénéfique pour moi. Vous voyez ? Que Dieu nous aide. Je crois que c'est important. Je veux titiller personne ce matin. Je veux mettre personne mal à l'aise. Mais quelque part, l'enfant de Dieu, lui, son désir, enfin normalement, c'est de laisser le Seigneur le conduire. C'est laisser le Seigneur ouvrir les portes et pas agir à la manière des hommes. Je connais quelqu'un, t'inquiète, ceci, cela, machin, ouais, je vais téléphoner pour toi, je vais passer un petit coup de fil. Ouais. Je veux bien. Mais enfin, je crois que si la porte ne s'ouvre pas, c'est que peut-être Dieu a ses raisons. Et c'est important. C'est important. Et puis il y a une autre situation, et je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est Balaam. Balaam, cet homme qui a fini misérablement. Si vous regardez un petit peu l'histoire de cet homme, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu a été extrêmement sévère avec lui. Regardez les versets qui concernent Balaam, notamment dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est dur. Hein. C'est extrêmement dur. Et on se dit, mais comment ça se fait que Dieu est sévère avec cet homme? Si on résume un peu l'histoire de Balaam, c'est l'histoire d'un homme qui a forcé une porte qui était fermée. Alors peut-être pour se rafraîchir la mémoire, on va le lire. Permettez qu'on le lise. Dans le livre des Nombres, chapitre 22, verset 2. On va relire cette histoire. Vous la connaissez, mais je pense que c'est important de le relire. Regardez, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Vous voyez, hein, c'est quand même assez... Avec des présents, quand même, on ne sait jamais. Hein. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Regardez, Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Jusque-là, tout va bien. Hein. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. » Et regardez, Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Ben c'est clair, hein? Donc, je le dis avec mes mots, Dieu ferme la porte. C'est non. Est-ce que Dieu peut me dire non? Ouais, quand c'est pour l'autre, ouais. Quand c'est pour moi... En tout cas, là, ici, Dieu dit non. Et ce que j'aime, c'est que c'est clair, net et sans ambiguïté. Tu n'iras pas avec eux. Voyez. Le problème, on n'a pas lu, on va pas lire la suite, c'est que vous vous rendez compte quand même, vous sentez le truc, c'est que Balaam, il a envie d'y aller. Ah, ça le titille quand même, parce que j'ai fait ressortir dans la lecture ce petit bout là. Il a vu les petits dessous de table, les petits trucs là et tout ça. Il les a vus tout ça. Et quand même, ça l'intéresse. Quand même, c'est assez, vous voyez, ça lui plaît et il a envie d'y aller. Et vous relirez l'histoire, pour la deuxième fois, les émissaires vont revenir et ils vont revenir avec les mains encore plus chargées. Et même, ils vont revenir avec un discours tellement bien dit, diplomatiquement. « Ne laisse personne t'empêcher de venir vers moi. » C'est beau, hein, voyez. Et ce qui est terrible, c'est que Balaam, il aurait dû avoir une attitude claire et nette et dire « Écoutez, Dieu m'a dit non, c'est non. » Voilà. Dieu n'est pas une girouette, il ne change pas d'avis. Donc quand Dieu dit non, c'est non. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, écoutez, je vais demander à Dieu, comme s'il ne savait pas ce que Dieu allait lui dire. Et rappelez-vous la suite. Je prends juste ce qui m'intéresse. Donc maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Donc ça, c'est la deuxième fois. Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous savez, c'est le encore qui... Ça me gêne, vous voyez. Comme si Dieu avait encore quelque chose à lui dire. Vous voyez, j'ai l'impression, c'est ça, quoi. Vous voyez, il espérait que Dieu change d'avis. Vous voyez. au cas où Dieu a un peu évolué. Vous voyez ? On ne sait jamais. Si Dieu a changé d'avis, qu'il a évolué, je verrai ce qu'il va me dire encore. Regardez ce que Dieu va lui dire. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Ah ! Ben alors, j'avais raison. Vous croyez que c'est ça ? Vous croyez que Dieu a changé d'avis ? Non. Dieu n'a pas changé d'avis. Hein. Il est tout simplement en train de lui dire, « Tu veux y aller ? Vas-y. Tu veux y aller ? Tiens, crève d'envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, ça se voit. J'aurais aimé le voir, ça se voyait. J'ai envie d'y aller. Vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Moi, je crois que Dieu est celui qui ouvre les portes et qui les ferme. Ça, j'en suis convaincu. Mais je crois aussi que si Dieu nous ferme les portes et qu'on veut quand même le faire, qu'on veut quand même y aller, eh bien, Dieu nous dira, écoute, tu veux y aller, vas-y. Parce que Dieu n'est pas un gourou, hein. Dieu ne force personne. L'obéissance est une obéissance volontaire. C'est jamais une obéissance forcée. Dieu, c'est pas le général en chef, hein. On n'est pas à l'armée. Hein. On parle de l'armée de l'Éternel, mais l'armée de l'Éternel, elle fonctionne à l'obéissance. C'est une obéissance volontaire. Pas quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et, bon, je sais pas, j'espère que ça ne fonctionne pas chez quelqu'un comme ça ce matin, mais pour, chez Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand Dieu ferme une porte, mais qu'on veut quand même le faire, ben, tu veux y aller, vas-y. Et combien de fois j'ai vu des croyants foncer là où Dieu pourtant avait dit non. On a quand même voulu y aller. Dieu avait fermé la porte, c'était évident, c'était manifeste. Et quand je dis c'était manifeste, des fois il n'y a pas besoin d'une grande révélation. Hein. Il suffit simplement de lire ce qui est écrit. Il n'y a pas besoin d'une révélation. Vous voyez, des fois il y a des choses, mais c'est évident. Au niveau sentimental, on s'est mis avec un garçon, on s'est mis avec une fille qui ne partage pas du tout les mêmes... On l'a tellement voulu. Je la veux. Je le veux. Tu le veux ? Ben écoute, tu le veux, tu l'auras. Et puis après, parfois, pendant des années, on traîne des souffrances, des douleurs. Alors bien sûr, aujourd'hui, je sais très bien qu'on me dit, parce que... Ce sont des choses qu'on m'a dit, oui, mais aujourd'hui, même les chrétiens divorcent. Oui, ben, c'est pas une raison, hein. C'est pas une raison, hein. Et attention, quand je dis ça, je méprise personne. Hein. Je méprise personne parce que personne n'est à l'abri. Hein. Et c'est toujours une douleur. Voyez. Mais voilà, au niveau sentimental, au niveau professionnel, la porte, elle est fermée, mais on le veut quand même. On a quand même envie de ce poste parce que. Le chèque à la fin du mois, et puis les avantages, et puis 14 mois et demi, quoi. Et puis 7 semaines de congé. Ah. Vous voyez ? Ouais. Alors on fait jouer les connaissances, machin, mais si, je vais t'inquiète, etc. Et puis pourtant la porte elle est fermée, mais on veut y aller. Bah, tu veux y aller, vas-y. Mais parfois c'est au détriment de la vie spirituelle. C'est au détriment de notre relation personnelle avec Dieu, c'est au détriment de notre vie d'église, on n'en a plus. Et combien de fois j'ai vu ça ? Mais combien de fois j'ai vu ça ? Plus de vie d'église, plus de vie spirituelle ou très peu. Et quelqu'un qui était bouillant, fervent, engagé avec le Seigneur, tout d'un coup vous le voyez complètement éteint. Mais complètement éteint. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné une porte était fermée, mais on voulait tellement y aller qu'on y est allé. Tu veux y aller ? Vas-y. Ça peut être aussi au niveau... J'espère qu'il n'y a personne ce matin. Enfin, s'il y a quelqu'un, ben écoute... Au niveau d'un achat, mais ça aussi, combien de fois je l'ai vu. On veut cette maison. J'ai rien contre le fait d'acheter une maison. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais encore, faut-il que Dieu soit dans le coup. Faut-il que quelque part... Parce que je crois que même ces choses-là, il faut les mettre devant Dieu. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Hein. Mais enfin, nous, avec Rosetta, même pour acheter une voiture, on le met devant le Seigneur. Parce que j'y connais rien en bagnole. Si j'achète une bagnole, moi, le moteur, il est mort, je ne le verrai même pas. Alors, donc je préfère dire, Seigneur, écoute, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord ? Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que Dieu nous a bénis, les bagnoles qu'on a eues, impeccable. Je dis, Seigneur, ça c'est super. Hein. Allez. Mais ça va jusque-là, parce que comme ça aussi, je l'ai vu, on veut cette maison, il y a tout, il y a ça, il y a tout ce qu'il faut, et ce n'est pas interdit. si c'est dans la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on la veut, et alors on va voir la banque, et la banque, elle refuse le crédit, et bien c'est pas grave, on va voir une autre banque, et puis elle refuse le crédit, et bien c'est pas grave, on va encore avoir, et puis on s'engage dans des trucs, et les pré-relais, les machins, et tout. Et puis quelques temps plus tard, c'est la galère. Et je vous parle ça de choses que j'ai vues. Pourquoi ? Parce que c'est, tu veux y aller ? Je ferme la porte, mais tu veux y aller, tu es comme Balaam, tu veux y aller ? Vas-y. Mon frère, ma sœur, n'ayons pas la prétention de faire changer Dieu d'avis. Et de dire comme Balaam a dit. Tu peux me remettre le verset d'avant, verset 19. Et peut-être que Dieu changera d'avis. Je verrai ce que l'Éternel me dira encore. Mais il n'avait pas besoin de dire encore, c'était tout dit déjà. Il y a des choses, c'est clair. Et j'ajouterai peut-être ceci. Je vais quand même le faire. Vous savez, à ce niveau-là, tout ce que je viens de citer, les exemples concrets que je viens de citer, là, vous trouverez toujours des gens, vous trouverez toujours un pasteur, vous trouverez toujours une église qui vous dira ce que vous avez envie d'entendre. Vous en trouverez toujours un, en cherchant bien, vous en trouverez un. Vous en trouverez un. Là, il veut pas, là, il veut pas, là, il me dit que non, là, il me dit que non, là, il me dit que non. Ah ! Lui, il m'a dit que c'était pas si évident que ça. Eh ben voilà. Oui. Je préfère laisser Dieu me diriger. Dire Seigneur, je veux que tu me diriges. Si la porte elle est fermée, si je sens que ça résiste, si je sens que ça s'ouvre pas, ça, il faut forcer, il faut téléphoner, il faut ceci, il faut cela, je préfère laisser tomber. Parce que je crois que les portes de fer, quand c'est sa volonté, Dieu les ouvre. Ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer, hein, il n'y a pas besoin, ça se fait. Et ça s'ouvre, même des fois on est étonné. Moi j'ai vu des fois Dieu ouvrir des portes, c'est surprenant quoi. C'est surprenant, il y a pub. Hein, c'était même trop facile quoi. Ah bon, ben, on y va. Hein. Mais je bénis Dieu pour ça. Je terminerai par un dernier exemple. C'est Ésaü. Alors là c'est un cas typiquement différent. Rappelez-vous de ces paroles dans Hébreux 12, qu'on connaît bien. Il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Et regardez le verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il la sollicita avec larmes car son repentir ne put avoir aucun effet. Si je résume un petit peu, Ésaü, c'est l'homme qui s'est fermé les portes tout seul, comme un grand. Je crois que Dieu est celui qui ouvre les portes et je crois que Dieu est celui qui les ferme. Voyez, mais dans la mesure où on se laisse diriger, dans la mesure où on se laisse conduire, dans la mesure où, quel que soit le domaine, on dit « Écoute Seigneur, moi je pense que, moi je voudrais que, mais si tu veux Seigneur une autre porte ou une autre direction, je t'écouterai. » Alors si on est comme ça, avec cet état de cœur-là, je crois que Dieu dirige. Ouvre les portes, ferme les portes, il n'y a aucun souci. Voyez, mais quelque part, je crois aussi que par nos comportements, nos attitudes, nos façons de faire, on peut se fermer les portes tout seul. J'allais dire, Dieu n'a même pas besoin d'intervenir, même pas le diable. On se les ferme tout seul. Et ça, c'est un petit peu, quelque part, ce qui s'est passé pour Ésaü. Ésaü, quand vous regardez son histoire, vous la lirez à la maison, Dieu n'a jamais pu le diriger. Jamais. Il a toujours fait comme il a voulu, il a toujours fait selon ses idées, il a toujours fait à sa tête, selon ses conceptions. Comment voulez-vous que Dieu dirige quand c'est comme ça ? Quand on veut en faire qu'à sa tête, qu'à ses idées, que non, qu'on pense qu'on a toujours raison, que les autres ont toujours tort, etc. Comment vous voulez que Dieu nous dirige, voyez ? Mais quand on est comme ça, on se ferme les portes tout seul. Et résultat, vous l'avez au verset 17. Le verset 17, hein, il est fatigué le vidéo ? Hein, il est déjà en vacances ? Hein, le verset 17, hein, qu'est-ce qu'on a lu ? Moi, ça m'interpelle ce verset. Regardez, il est dit « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, quelle bénédiction ? Celle de son père ?» Il fut rejeté, quoiqu'il les sollicite avec larmes. Vous voyez ? Et des fois, combien d'enfants de Dieu, quelque part, font un peu comme Ésaü ? On fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut. Mais la bénédiction du Père, on la veut quand même. Hein ? On la veut quand même, la bénédiction du Père. Eh ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Le problème d'Ésaü, c'est que il s'est fermé les portes tout seul. Et j'ai pas envie d'être un Ésaü, de me fermer par mes comportements, mes attitudes, de me fermer les portes tout seul. Quelque part, j'empêche tellement Dieu d'agir dans ma vie parce que je fonctionne tellement comme j'ai envie, comme ça me plaît selon mes idées, que quelque part, Dieu n'a pas son mot à dire. Et quand Dieu n'a pas son mot à dire, il dit plus rien. Hein. Tu veux faire comme ça? Ben vas-y. Hein. Mais tu te fermes les portes tout seul. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je crois que tu es celui qui ouvre les portes. Tu es celui qui les ferme. Alors, Seigneur, je préfère te laisser diriger les choses. Afin que, Seigneur, je ne sois pas à côté, je ne sois pas là, en train de tambouriner à la mauvaise porte, mais que je sois là vraiment que, à la bonne porte, celle que tu as prévue pour moi. Alléluia. Alors, je vais terminer, je m'arrête là. Je ne sais pas où on en est ce matin. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, à quel stade où on en est, mais peut-être on est dans l'attente d'une direction. Peut-être on dit, Seigneur, on tâtonne un peu. On dit, Seigneur, je cherche un peu ma voie, je voudrais savoir qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta volonté pour moi dans tel domaine, dans tel domaine, dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse, etc. Voyez, où il faut que j'aille, où il ne faut pas que j'aille. Alors par rapport à tout cela, rappelons-nous toujours une chose, c'est que quand c'est la bonne porte, ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Quand c'est ce que Dieu veut, touc, ça se fait. Je pourrais vous raconter des témoignages, des choses qu'on a vécues avec Rosetta, on a vu les portes s'ouvrir, mais... c'était pratiquement impossible. C'était pratiquement impossible. Moi, je me souviens quand on était tout jeune marié, quand on est parti de Mont-de-Marsan pour arriver sur Montpellier, parce qu'à Mont-de-Marsan, j'avais plus de travail. J'étais pas encore dans le ministère à ce moment-là. Et qu'on a pris la décision de revenir à Montpellier contre la vie de beau-papa. Je ne vous explique pas. Quand je me souviens comment Dieu a ouvert les portes, dans la ville de Montpellier, trouver un appartement en l'espace de très peu de jours, je ne me souviens plus, c'était il y a 25 ans en arrière, mais trouver un appartement comme on a trouvé en très peu de jours, l'appartement juste au-dessus de ma sœur, juste au-dessus, ça faisait du bien quand vous arrivez quelque part, que vous avez votre petite sœur juste en dessous, c'est bien quoi, hein. Dieu a poussé le bouchon jusque là, juste, hein, tiens. C'était au-dessus ou au-dessous, je ne me rappelle plus, enfin, on était, bref, on a vu la main de Dieu, Dieu a ouvert la porte, et Dieu a ouvert la porte de l'appartement, Dieu après a ouvert la porte du travail, il n'y a pas eu besoin de forcer. Ça s'est fait, alléluia. Et puis derrière, après, la porte du service de Dieu s'est ouverte aussi derrière. Alors, quand c'est Dieu qui conduit, mais c'est extraordinaire. C'est bénissant et c'est enthousiasmant. C'est pour ça que je voudrais nous encourager ce soir. Je ne sais pas où on en est, mais mon frère, ma soeur, rappelle-toi, si, quand Dieu ouvre une porte, il n'y a pas besoin de former. Et si la porte se ferme, sois pas déçu, sois pas découragé, ça veut dire que peut-être Dieu sait ce qu'il y a derrière cette porte-là et il préfère te l'éviter, mais ça veut dire qu'il y en a une autre porte qui va s'ouvrir. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir, voyez. Mais de grâce, soyons malléables et souples entre les mains du Seigneur. Et rappelons-nous toujours de l'apôtre Paul. Il a pris la porte de la Macédoine, ce n'était pas celle qu'il avait prévue au départ, mais c'était la meilleure. Et si peut-être Dieu t'ouvre une porte dont tu n'avais peut-être pas pensé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est peut-être pas franchement là que tu pensais aller, ce n'est pas franchement dans cette direction, ce n'est pas franchement dans cette voie, mais tu sens que ça s'ouvre, eh bien béni soit Dieu. Gloire à Dieu, ça veut dire que Dieu a de bonnes choses, parce que non seulement Dieu ouvre une porte pour maintenant, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, après qu'on ne maîtrise pas, mais que Dieu lui connaît. C'est pour ça que c'est important de dire au Seigneur que dans ma vie, tu sois celui qui ouvre, mais qui ferme. Et pas simplement celui qui ouvre. Parce que celui qui ouvre les portes, on est tous d'accord, hein, Seigneur, ouvre-moi les portes. Mais je veux aussi que tu sois, si besoin est, celui qui les ferme. Et si Dieu les ferme, une porte qui se ferme, c'est aussi une bénédiction. Quand Dieu ferme une porte, c'est aussi une bénédiction. Alors que Dieu nous dirige. Et ma prière, c'est que les uns et les autres puisse dire, Seigneur, je veux être souple et malléable entre tes mains. Je veux que tu puisses me diriger comme toi tu veux, Seigneur. Pas là où moi je veux, pas comme je veux. Pas... Je ne veux pas être un Balaam. Et si Dieu a mis toutes ces histoires, Balaam, Ésaü et d'autres, c'est pour qu'on tire instruction afin qu'on puisse faire les bons choix pour nos vies, alors que Dieu nous aide. On prie le Seigneur. Seigneur, merci encore ce matin. Je réalise encore que on est tellement fragile. Je suis tellement fragile, Seigneur. Et on est tellement sujet à l'erreur. Peut facilement se tromper, et moi le premier, Seigneur. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Dirige-nous. Ouvre les portes qui sont les bonnes. Ferme celles qui ne le sont pas. Et si peut-être quelqu'un ce matin est dans le brouillard, peut-être dans l'expectative, peut-être dans l'attente, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, je te demande de le conduire, Seigneur. Je te demande de fermer les mauvaises portes et d'ouvrir la bonne porte. Quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, matériel ou autre, Seigneur, je te prie vraiment que nous soyons des hommes et des femmes, que tu puisses conduire, que tu puisses diriger. Je ne veux pas simplement chanter, Seigneur, je décide de te suivre, mais je veux que ce soit la réalité. Et Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous conduire et nous diriger dans ce que toi tu as prévu. Seigneur, garde-nous dans tes pas, garde-nous dans ta paix. Je te bénis encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te confie nos vies, je te confie nos familles, Seigneur. Je pense encore à cette famille Landrévy, Seigneur, pour que tu la bénisses, Seigneur, et que vraiment tu les consoles. Seigneur, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.